Radio Kapi.
De Kinshasa, les informations, Pascal Massirika.
À la une ce midi, un couvre-feu de 4 jours est décrété à Kindu. Objectif affiché par le gouverneur intérimaire du Maniema, traquer les bandits à main armée qui sèment la désolation dans cette ville. 3 cas de coronavirus signalés dans la province de la Mongala. Face au danger, le comité de riposte entend renforcer davantage les activités de surveillance et de dépistage, mais les intrants font cruellement défaut. Notre invité, c'est Maître John Vouleverio, cet avocat des victimes parle des violations des droits de l'homme attribuées aux opérateurs miniers étrangers œuvrant dans les territoires de Mambasa en Ituri. Madame, Messieurs, bonjour au Maniema. Le ministre provincial du budget qui assume l'intérim du gouverneur a décrété hier jeudi un couvre-feu de 4 jours à Kindu qui va de 20h à 5h45. Cette décision a été prise lors du conseil provincial de sécurité en vue de permettre aux services de sécurité de traquer les bandits en main armée qui sèment de la désolation dans cette ville. Les propos d'Assoumani Mankou ont été recueillis par Florence Kizalunga.
Conformément à la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Kindu avec des bandits mais armés et autres malfrats, le conseil provincial de sécurité a pris un certain nombre de mesures dont une de ces mesures était importante qu'elle soit communiquée à la population. Cette mesure, c'est le couvre-feu qui est décrété dès ce jeudi jusqu'à lundi. Et ce couvre-feu commence à partir de 20h juste jusqu'à 5h45. Cela a pour objectif de démanteler tous les réseaux de ces malfrats qui sont en train de semer désolation en nos différentes populations de la ville de Kindu. Vous savez, tout travail mérite une évaluation. Donc, après ces 4 jours, il y aura une évaluation et d'autres mesures accompagnatrices seront prises quant à la continuité des différentes mesures sécuritaires. La situation, elle est alarmante comme vous connaissez vous tous. Et c'est comme ça qu'on atteint à ce que ça passe par toutes les voies des ondes. Et aujourd'hui, j'ai dit à partir des 20h, cette mesure doit être mise en application.
Pendant ces temps, le commandant second du secteur opérationnel Sokola 2 des FARDC au sud de la province et du sud Kivu, le général Joseph Banza Kabulo, salue la collaboration franche entre les jeunes et les services de sécurité dans la ville d'Uvira. 2 armes Kalachnikov et des munitions de guerre ramassées par de jeunes de la localité ont été remises au FARDC ce jeudi après-midi dans le groupement incorporé à Kalo. À Uvira, Fiston Goma Mayabala.
L'incident s'est produit vers 7h du matin dans une ferme où l'on fabrique des briques à Kaala dans la périphérie nord de la ville d'Uvira. Une femme menait des activités champêtres lorsqu'elle a découvert une arme et quelques munitions de guerre cachées dans sa ferme. Aussitôt alertée, de jeunes du milieu et une équipe de patrouille des FRDC se sont précipités sur le site. Après une fouille systématique dans la prairie, ils disent avoir retrouvé une deuxième arme, des munitions de guerre et d'autres équipements militaires. Pas plus tard que mercredi, dans le groupement de Katala, d'autres jeunes ont appréhendé un voleur présumé de bétail ainsi que 5 vaches vivantes au village Namukangaza, au nord de la ville. Le présumé s'est dirigé vers les montagnes surplombant le village lorsque des habitants ont soupçonné son mouvement avant de l'arrêter. Le présumé a reconnu faire partie des groupes de bandits qui avaient pillé les vaches la semaine dernière vers Kiliba Ongero. Les porte-parole de FRDC et le capitaine Dedone Kasereka rappellent que plusieurs cas d'assassinats ciblés, des kidnappings et des cas de braquage sur les véhicules ont été signalés les 2 derniers mois dans la plaine de la Ruzizi et la ville d'Uvira. D'Uvira Fistongo Momayabala, Radio Okapi.
Santé à présent. Dans la Mongala, le comité de riposte contre la pandémie du coronavirus révèle que 3 cas positifs sont signalés à Lissala depuis le 5 juillet. Ces malades sont pris en ce moment en charge à l'hôpital général de la ville. Il y a également 4 cas testés positifs à Gemena et ici à Kinshasa. Face au danger, ce comité entend renforcer les activités de surveillance et de riposte. Il plaide pour l'obtention d'un appui en intrant. Le point de la situation avec vous, Paul-Richard Malengela.
C'est depuis le 5 juillet dernier, date à laquelle le tout premier cas testé positif a été notifié à Lissala. Ce cas autochtone est un inspecteur de santé basé à Boussoumandji, à 130 km de Lissala. Il était en mission de service dans la ville lorsqu'il a été testé, a expliqué le chef de division de la santé Mongala, le docteur Lué Bambé. Les deux autres cas, dont également un personnel de santé, ont été notifiés ce jeudi. Alors, les trois malades sont pris en charge à l'hôpital général de référence. Quatre autres malades testés positifs et pris en charge, trois à Guémena et un à Kinshasa, ont eu des liens avec les habitants de Lissala où ils ont séjourné récemment. Voilà pourquoi le comité provincial de riposte a décidé de mener le suivi de leurs contacts. Cependant, les moyens matériels sont très limités, a ajouté notre source. D'où l'appel lancé par le médecin chef de division provinciale de santé au gouvernement central et aux partenaires en vue de renforcer les capacités de la Mongala en matière de protection, de tests et de prise en charge. Car les produits et les tests disponibles sont en quantité insuffisante, a-t-il indiqué. Enfin, le docteur Lué Bambé a recommandé à toute la population le respect des mesures barrières telles qu'édictées par les autorités nationales. Mbandaka pour Chamalingela Radio Okapi.
Poursuite à Kananga de la vaccination contre le coronavirus initiée par le programme élargi des vaccinations. Le coordonnateur provincial affirme que 1000 doses de vaccin AstraZeneca ont été disponibilisées dans un premier temps pour couvrir le besoin. Le docteur Charles Kabasele appelle la population à se faire vacciner au plus vite pour se mettre à l'abri du danger. Il est au micro de François Kadima.
Ce vaccin a été homologué par l'OMS, c'est pourquoi nous sommes en train de l'utiliser. J'insiste bien, ce vaccin a été homologué par l'OMS, c'est-à-dire accepté par l'OMS. Notre direction, nous avons envoyé 1000 doses. Nous pouvons vacciner, nous avons date limite jusqu'à le 11. 1000 doses, c'est beaucoup. C'est ainsi que nous sommes en train de vacciner. La quantité de vaccin, elle est consistante puisque nous aurons encore une autre quantité, une grande quantité qui viendra encore d'ici là, de Kinshasa. Puisque nous avons déjà vacciné un certain nombre de gens, les gens sont en train de venir. Selon la note circulaire du secrétaire général, nous devions vacciner à partir de plus de 18 ans jusqu'à X âge. Alors c'est ainsi, quand ils viennent, on doit les vacciner. Mais avant de vacciner, on doit d'abord les examiner. Et lorsqu'ils sont vaccinés, on les observe. Il y a un médecin pour l'observation et par conséquent, si on trouve qu'il n'y a pas tellement de petits bobos, alors le sujet peut rentrer.
On enchaîne avec l'Ituri où plus de 300 maisons détruites et 5 ponts effondrés. C'est le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues mardi dernier sur la ville de Bounia. Des centaines de familles sont en ce moment sans abri après le débordement des eaux de la rivière Ngezi. Le service de la protection civile dit avoir alerté les autorités sur ces dangers. À Bounia, une correspondance d'Ezekiel Mousalia.
C'est depuis 3 jours que la ville de Bounia connaît de fortes pluies accompagnées des vents violents qui s'abattent sur toute l'étendue de la ville. Mercredi dernier, la rivière Ngezi, qui traverse 6 quartiers de la ville, a débordé de son lit. Les eaux se sont étendues à plus ou moins 100 mètres à la surface. Des maisons, églises, ainsi que des écoles et structures sanitaires ont été englouties par les eaux. Certaines victimes de cette catastrophe disent avoir tout perdu. Les services de la protection civile affirment avoir répertorié plus de 300 habitants endommagés et 5 ponts coupés, une situation qui perturbe les trafics dans les centres-villes. De nombreux élèves et étudiants parcourent des longues distances pour se rendre à l'école. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. De son côté, le maire de la ville de Bounia déclare que ces dégâts sont l'une des conséquences des constructions anarchiques longtemps décriées en province. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, les sinistrés de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo demandent aux autorités provinciale et nationale de leur offrir au plus vite des semences en vue de la reprise effective des activités champêtres. Requête formulée par un responsable du site situé à l'école primaire de Bujoga dans le village de Kibati lors d'une distribution de l'aide alimentaire organisée par l'ONG Sawyer of Hope. Plus de 1000 ménages ont reçu des vivres et des non-vivres. Un reportage de Sifamagro.
Nous vivons de l'agriculture et nous ne pouvons pas attendre chaque jour l'assistance alimentaire, encore moins que c'est pas tout le monde qui accède au quotidien à cette assistance, a déclaré Gaspard Rukizé, chef de site des sinistrés de l'EP Mujoga à Kibati. Tout en remerciant l'organisation SOAS of Hope, entendez, ses mères d'espoir pour cette provision, il a souligné la nécessité pour eux de reprendre les activités agricoles dont ils vivent afin de subvenir à d'autres besoins. besoins. En outre, Gaspard Rukizé plaide pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans les sites qui restent encore difficiles, notamment par manque de matelas et autres. Avant les volcans, nous menions une vie grâce à l'agriculture, l'élevage et les commerces. Et maintenant, après les volcans, nous ne savons pas quoi faire parce que nos champs ont été détruits. L'aide humanitaire, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant par rapport au nombre de personnes que vous voyez ici dans la cour. Nous aimerions que, comme nous vivons de l'agriculture, cette petite partie des terres qui est restée, qu'on nous donne des semences et nous allons cultiver. Même plaidoyer formulé par l'ONG donateur, qui a constaté toutes ces difficultés auxquelles font face ces milliers de personnes sinistrées qui vivent encore dans les écoles et autres sites provisoires. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce midi au Kasaï Oriental, à quelques heures de leur entrée en fonction à l'Université officielle de Mbujimayi, d'importantes recommandations attendent sur la table les membres du nouveau comité de gestion. C'est ce qui ressort en tout cas des consultations entamées cette semaine avec les professeurs, les chefs des travaux et les assistants en Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Le premier groupe à être reçu est constitué des professeurs. Ces derniers ont fait l'état des lieux des infrastructures et ont souhaité que le nouveau comité respecte les textes qui organisent l'enseignement universitaire. Professeur Hilaire Kabuya.
La loi de 2018 qui gère aussi bien les professeurs, les assistants, les chefs de travaux, il faut effectivement arriver à les mettre en application. Il faut revoir les infrastructures et regarder les auditoires dans lesquels étudient nos étudiants. Il n'y a pas d'ampoule.
Les assistants et les chefs des travaux, pour leur part, attendent l'ouverture d'une bibliothèque moderne et l'amélioration des conditions de vie. Dorothée Kankolongo, assistante au département des sciences de l'information et de la communication.
Nous attendons exactement l'humanisation du personnel assistant, sa considération, cette estime pour la personne assistante. La majoration de notre prime locale, la mécanisation, l'amélioration des conditions et aussi une bibliothèque moderne et cette facilité pour pouvoir émerger dans la recherche.
Signalons que la remise et reprise entre le nouveau et l'ancien comité de gestion de l'IOM est prévue pour ce samedi 10 juillet prochain. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa où une dizaine d'associations féminines du secteur des mines ont adressé hier jeudi après-midi un mémorandum au Premier ministre Samalou Kondé pour dénoncer les interdictions illégales et inexpliquées de la remise et reprise à la direction générale du cadastre minier. Elle dénonce une forme d'injustice et de discrimination à l'égard de la femme et espère éclairer la religion du Premier ministre congolais dans la mesure où elle considère qu'il est mal renseigné sur ce dossier. Des précisions avec la coordonnatrice des programmes de Femmes Solidaires. Les propos de Madame Mignonne Mbombo ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous venons de déposer notre mémo au Premier ministre par rapport à la situation qui se passe au cadastre minier. Cette situation concerne particulièrement Madame Chantal Bachizi qui a été nommée directeur général depuis 2018. Jusqu'à présent, elle n'arrive toujours pas à accéder à ses fonctions. Ça fait 3 fois qu'il y a eu des reports et pour la dernière fois, le Premier ministre a bien signifié que la date est prévue pour le 17 juillet. Nous ne voulons plus jamais de report par rapport à cette date et nous savons bien que le Premier ministre, c'est un homme de parole. Nous le tenons au mot et nous savons que la date du 17 ne sera jamais report. Réunis plusieurs associations des femmes. Nous sommes venus en appui à Mme Chantal Bachizi par rapport à la discrimination et à l'injustice que vit la femme congolaise parce qu'elle a toutes les compétences, toutes les capacités et là, toutes les notifications en bonne et due forme. Mais jusqu'à présent, elle n'arrive toujours pas à accéder à ses fonctions. Alors, nous sommes venus pour lui rappeler que cette date ne soit plus jamais reportée. Mme Bachizi est dans ses droits. Elle doit jouir de ses fonctions, elle doit jouir de ses droits et nous sommes là en tant que solidarité de femmes pour la soutenir. Nous allons la soutenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle accède à ses fonctions.
Actualité internationale.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle les Haïtiens au calme après la mort du président Jovenel Moïse. Pendant ces temps, la traque des assassins se poursuit dans le pays. Le directeur général de la police nationale, Léon Charles, annonce que le commando armé qui a assassiné le président mercredi soir à son domicile était constitué de 26 Colombiens et de 2 Américains originaires d'Haïti. 2 Américains et 15 Colombiens ont été arrêtés, 3 Colombiens tués et 8 autres sont toujours en fuite. C'est aujourd'hui le 10e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud, le plus jeune État meurtri de la planète. Le 9 juillet 2011, l'espoir suscité par son indépendance arrachée après des décennies de lutte était immense. 10 ans et une guerre civile plus tard, le pays vit en ce moment l'une des pires crises humanitaires de la planète. Et puis, les Nations Unies ont poussé hier jeudi après-midi l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à reprendre au plus vite les négociations autour du grand barrage de la Renaissance sur les Nil sous l'égide de l'Union africaine. L'Égypte aurait pourtant voulu que le Conseil de sécurité des Nations Unies se saisisse du dossier, mais à l'unanimité, les 15 membres du Conseil de sécurité les ont invités à se repencher sur des concessions pour pouvoir régler la situation au plus vite.
L'invité.
Plusieurs allégations de violation des droits de l'homme attribuées aux opérateurs miniers étrangers sont rapportées par la société civile et des organisations des défenses des droits de l'homme du territoire de Mambasa en Ituri. Des images de traitements dégradants où certains compatriotes qui travaillent sur des sites miniers ont circulé sur les réseaux sociaux au mois de juin dernier. Pour en parler, notre invité, ce maître John Voulez-Verrieux, avocat des victimes et activiste des droits de l'homme. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Maître John Voulez-Verrieux, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Êtes-vous au courant des informations relatives aux violations des droits de l'homme dans les territoires de Mambasa, dont seraient auteurs des opérateurs miniers asiatiques, pour ne pas citer des Chinois?
En fait, nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans les carrières minières. À Mambasa, les victimes se plaignent de plusieurs traitements des droits humains, des violations des droits humains, voulais-je dire. Les uns ne se plaignent pas, surtout les jeunes, par la crainte de perdre leur petit boulot qu'ils œuvrent et qu'ils exécutent au niveau des carrières minières. Et dans les camps d'échéants, sont très rares ceux qui se plaignent devant les OPJ ou même devant les responsables des organisations des droits de l'homme pour un accompagnement. Et dans notre office, tant qu'actifs des droits de l'homme, nous venons de recevoir 4 plaintes venant de certains jeunes qui travaillent dans des carrières minières aujourd'hui exploitées à Mambasa.
Donc, on avait reçu que 4 plaintes jusqu'à présent.
Ça, ce sont des plaintes de ceux-là qui ont subi des extorsions et des traitements inhumains et dégradants. Mais nous avons réceptionné plus de 200 plaintes des agriculteurs qui, du reste, se plaignent d'avoir assisté impuissamment à la destruction, on dirait méchante, de leurs champs de cacao au niveau du territoire de Mambasa, notamment sur l'axe Mambasa-Biakato, dans des carrières minières à Biondo et partout ailleurs dans les territoires.
Déjà, puisque vous en parlez, maître John Voulez-Verrieux, de quelle violation des droits de l'homme concrètement s'agit-elle?
Eh bien, vous savez que les lois de la République garantissent les propriétés privées. Lorsqu'il y a un élément qui veut violer une propriété privée appartenant à autrui, ça c'est une violation grave même des droits humains. Au-delà de ça, lorsque des personnes sont torturées, des personnes sont fouettées à raison d'avoir commis une trop petite erreur dans l'exercice de ces petites tâches qu'il effectue au niveau des carrières minières, ce sont des violations des droits de l'homme graves et qui restent même au jour d'aujourd'hui. Le travail est devenu un droit de l'homme, reconnu même dans les institutions de l'État congolais. Mais aujourd'hui, les jeunes frais qui se donnent à l'exercice de certaines tâches dans des carrières minières sont payés à monnaie de singe. Ce sont très rares qui, au bout du mois, peuvent recevoir même $80. Donc, vous trouvez qu'il y en a réellement un bon nombre de violations des droits humains qui se fait commettre dans des carrières minières à territoire de Mambasa.
À vous entendre, donc, vous confirmez qu'il y a eu des cas de traitement inhumain. Il y a des cas de bastonnades ou de fouets administrés à certains habitants ou employés de ces expatriés. Il y a pas longtemps, on a vu circuler sur les réseaux sociaux des images où on voit des citoyens, des employés qui sont fouettés. Vous confirmez que ces cas de bastonnades ou de fouets ont réellement eu lieu dans le territoire de Mambasa sur les sites miniers exploités par ces gens?
Affirmative, monsieur le journaliste, ce qui se vit dans les sites miniers aujourd'hui exploités à Mambasa, donc dans les territoires, c'est vraiment inacceptable. Parce que même les vidéos que vous avez vues circuler là, c'est dans les carrières que ces vidéos ont été filmées. Mais ce sont plusieurs cas à répétition et qui diraient même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes frères sont en train d'être fouettés dans des carrières minières à raison de n'avoir pas effectué peut-être une des activités qui lui sont conférées. Donc, c'est vraiment confirmé et c'est à cela que nous sommes en train d'ailleurs de décrier, alerter toutes les autorités politico-administratives, tant au niveau local qu'au niveau national, pour permettre à ce que des choses comme celles que nous sommes en train de vivre ici, passent ici, puissent prendre effet parce que c'est inadmissible. Si vous avez lu ces images, vous avez compris qu'il y avait des éléments de l'ordre, notamment les éléments de la FARDC qui étaient sur les images, qui sont en train d'être ordonnés par un monsieur debout qui dirait donner des injonctions pour que ces gens-là soient tabassés à telle sorte que vous avez vu cette image-là. Donc, vraiment, cette image a été filmée au lieu des faits commis par ces éléments que vous avez vus. Ces mêmes victimes qui, facilement, nous pouvons les retrouver, c'est terrible.
Maître John Vouleverio, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Jumel.
L'invité de Radio Okapi, c'était Maître John Vouleverio, avocat des victimes des violations des droits de l'homme dans le territoire de Mambasa en Ituri. Il était interviewé par Jean-Claude Lokidile. Il est 12h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga et Ben Kabamba qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi. Dans quelques instants, la page des sports avec Dieudonné Kabengalula.